Merci d'écouter RFI, midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour Anne Cantenaire et bonjour à toutes et à tous à la une. Le roi du Maroc au pied de l'avion du président français. Ce sera tout à l'heure à Rabat. Un accueil remarquable pour sceller la réconciliation franco-marocaine après 3 ans de brouille. Également dans ce journal, un nouveau coup de pression d'Israël contre l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'opposition se mobilise en Géorgie pour contester les fraudes, dit-elle, lors des législatives de ce week-end. Nous serons en direct de Tbilissi. On parlera aussi de la crise climatique avec de très mauvais chiffres sur les gaz à effet de serre. Et puis aux États-Unis, le couple Obama qui se mobilise pour Kamala Harris à 8 jours de la présidentielle aux États-Unis. Enfin, on parlera de Gérard Depardieu, l'acteur français. Son premier procès débute dans une demi-heure. Il est accusé d'agression sexuelle lors du tournage d'un film, mais il ne sera pas là pour des raisons de santé.
RFI Midi.
La réconciliation France-Maroc est en marche.
Emmanuel Macron arrive cet après-midi au Maroc pour une visite d'État de 3 jours. Et tout à l'heure, le roi Mohamed VI, en personne, sera au pied de l'avion pour accueillir le président français après 3 ans de très grande brouille entre Paris et Rabat. Une brouille qui a pris fin quand la France a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette visite d'État, c'est l'occasion de solder toute une série de contentieux. Il y a notamment la question des visas. La France en avait délivré 2 fois moins pour protester contre le refus du Maroc d'accueillir sur son territoire les Marocains expulsés par la France. Cette affaire, elle a laissé des traces dans la population marocaine.
Je suis tout à fait contre. On aime très bien en fait la France et on aimerait bien continuer nos études là-bas, rencontrer nos amis, nos familles. Ce n'est pas juste en fait.
Nous les Marocains, nous voudrions que Macron augmente le nombre de visas et qu'il y ait une solution à cette crise. Puisqu'il vient au Maroc et qu'il sera à Rabat où il va rencontrer le roi, c'est nécessaire de parler de cela. Je pense que c'est bientôt la fin de mandat de Macron. Il se peut que ça ou son successeur réduise encore plus les visas.
Je pense que ce sera l'un des premiers problèmes à être mis sur la table. C'est l'un des dossiers les plus importants parmi ceux qui doivent être discutés entre les deux pays. Pour moi, ce n'est pas logique, surtout que le Maroc est un pays francophone. Beaucoup de familles ont souffert ces 2 années-là. Beaucoup de gens ont dû changer leur plan.
Un reportage de Mathias Reynal à Casablanca, la capitale économique du Maroc. Il y a d'ailleurs beaucoup de contrats en perspective au menu de cette visite. La vente d'hélicoptères militaires français, la ligne grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, ou encore des Airbus pour la Royal Air Maroc, etc., etc. Emmanuel Macron et Mohamed VI devraient aussi évoquer les guerres d'Israël au Proche-Orient.
Précisément, au Liban, les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hezbollah.
Et 7 Libanais ont été tués ce matin par une frappe israélienne sur la ville de Tyr, sur la côte méditerranéenne. Après quoi, l'armée israélienne a appelé les habitants qui sont restés à évacuer plusieurs quartiers avec la publication des noms de rues qui allaient être ciblées. Le Hezbollah, de son côté, dit avoir tiré des roquettes sur des soldats israéliens déployés dans un village du sud Liban.
Dans la bande de Gaza, le seuil des 43 000 personnes tuées par l'armée israélienne est franchi, selon le gouvernement du Hamas.
Des morts, des blessés, un accès à l'aide humanitaire toujours aussi limité pour la population palestinienne. Alors justement, aujourd'hui, au Parlement israélien, les députés vont se pencher sur une proposition de loi qui vise à empêcher un peu plus encore le travail de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. On retrouve tout de suite Sami Boukhalifa à Jérusalem. Derrière cette proposition de loi, Sami, il y a une stratégie israélienne qui s'appuie sur des accusations de terrorisme, accusations sans fondement.
Oui, puisque plus tôt cette année, c'est l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui a mené l'enquête. Elle a remis son rapport en avril dernier. Ses conclusions pointent des insuffisances, mais pas de failles majeures. L'équipe de Catherine Colonna explique n'avoir reçu aucune preuve de la part des Israéliens pour étayer leurs accusations de lien entre l'UNRWA et le Hamas. Pourtant, dans la bouche des responsables de l'État hébreu, l'UNRWA est associée au groupe armé palestinien dans la bande de Gaza. L'objectif réel derrière cette stratégie est de décrédibiliser l'agence onusienne pour reprendre le contrôle des domaines dans lesquels elle intervient dans l'enclave palestinienne, principalement l'aide humanitaire. Car Israël souhaiterait consolider son pouvoir sur la population de Gaza, explique une source humanitaire sous couvert d'anonymat. Pour y parvenir, le gouvernement israélien veut privatiser la distribution de l'aide en la confiant à une entreprise appartenant à un homme d'affaires israélo-américain. GDC, pour Global Delivery Company, est une entreprise de logistique qui a déjà livré des armes à Israël dans le passé, poursuit la même source basée ici à Jérusalem. Dans le milieu humanitaire, l'inquiétude est grande. Les Israéliens ont prouvé qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt des civils gazaouis. L'aide humanitaire est utilisée comme une arme de guerre et c'est pour cette raison qu'ils souhaitent court-circuiter le travail de l'ONU en criminalisant l'UNRWA, conclut cette source.
Sami Boukhalifa en direct de Jérusalem.
En Ukraine maintenant, c'est une autre agence de l'ONU qui se retrouve dans la tourmente.
Un employé du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, est accusé par Kiev de traîtrise, accusé d'espionnage au profit de la Russie en fournissant des informations sur les positions de l'armée ukrainienne dans l'est du pays, a signalé aussi des bombardements russes sur des infrastructures électriques ces dernières heures qui ont entraîné des coupures d'électricité dans deux régions ukrainiennes.
La Russie a-t-elle compromis le résultat des élections en Géorgie ?
C'est l'accusation lancée depuis hier par le bloc occidental qui met en doute la victoire aux législatives du parti Rêve géorgien, parti pro-russe qui a recueilli presque 54% des voix. L'Allemagne, par exemple, ce matin a dénoncé des irrégularités significatives. Alors à Moscou, le Kremlin a rejeté ce matin fermement ces accusations, lancées aussi en Géorgie et d'abord par la présidente géorgienne pro-européenne. Elle a lancé un appel à la mobilisation. Une manifestation aura lieu dans quelques heures devant le Parlement de Tbilissi. On retrouve en direct de la capitale géorgienne Régis Janté. La Géorgie, en fait, est une illustration de la fracture Europe-Russie.
Oui, absolument. Et cette manifestation de l'après-élection parlementaire sera un premier test pour l'opposition, un test de la colère qui anime le pays. L'élection ayant été volée, selon elle, et étant synonyme de fin du rêve européen d'un pays où 80% des gens, des 3,7 millions de citoyens, disent vouloir devenir membre de l'UE. Dans les QG des partis, on tente maintenant de prouver autant que possible la fraude qui aurait entaché l'élection, s'intéressant notamment à l'étrange augmentation du nombre d'électeurs cette fois par rapport au précédent scrutin et à la disparité inhabituelle cette fois entre les sondages à la sortie des urnes et les résultats officiels. Le gouvernement, lui, est tout à la légitimation du scrutin et de sa victoire. C'est dans ce contexte qu'arrive ce lundi soir à Tbilissi le premier ministre hongrois Viktor Orban, lequel avait été le premier à féliciter le rêve géorgien pour sa victoire dès samedi soir, avant même que les résultats officiels ne soient connus. Monsieur Orban s'affiche depuis quelques années comme un ami du gouvernement géorgien, les deux se disant défenseurs des valeurs traditionnelles et plaidant pour une certaine collaboration avec Moscou.
Régis Janté en direct de Tbilissi.
Il y avait aussi des législatives au Japon, mais là, le parti au pouvoir les a perdues.
Et on parle même d'échecs cuisants pour le parti libéral-démocrate, lui qui dirige le Japon quasiment sans discontinuer. La coalition de droite n'obtient pas la majorité. Et pourtant, Nicolas Rocca, le Premier ministre, refuse de démissionner.
Oui, Florent, dans une conférence de presse ce lundi, Shigeru Ishiba a reconnu sa défaite, prenant acte de la colère et de la défiance des électeurs. Mais malgré la gifle reçue dans les urnes, il a exclu pour l'instant toute démission ou même discussion avec d'autres partis afin d'obtenir les 18 sièges manquants pour s'assurer une majorité.
En ce qui concerne le type de structure gouvernementale que nous envisageons pour l'avenir, à ce stade, je n'envisage pas d'élargir la coalition.
Très critiqué au sein de son propre camp, le Premier ministre, arrivé au pouvoir le 1er octobre, aura du mal à faire accepter son plan de relance budgétaire ou sa ligne très militariste sur les affaires étrangères. Il espère travailler avec les oppositions pour que ses projets soient votés texte par texte.
Je pense que c'est de notre responsabilité en tant que parti avec le plus de sièges de construire une relation de confiance et d'avoir des gens qui comprennent que nous allons devoir travailler ensemble pour le bien du peuple, même si l'on vient de partis différents.
La première force d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel, a effectué une progression éclair mais insuffisante pour gouverner seul afin d'espérer d'atteindre la majorité. Son leader, M. Noda, doit rallier derrière lui une coalition très large qui irait du Parti communiste au très droitier Parti de l'innovation, une mission qui semble quasi impossible.
Nicolas Roca du service international de RFI. On reste au Japon avec des nouvelles du Mont Fuji. Il manque quelque chose au sommet du plus célèbre volcan japonais qui culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. Il manque de la neige et c'est inédit à cette date pour un 28 octobre depuis 130 ans. Les premiers relevés, pas un flocon sur le Fuji après un été caniculaire record.
Et le réchauffement climatique n'est d'ailleurs pas prêt de décélérer.
C'est l'Organisation mondiale de la météo qui le dit à 2 semaines de la COP29, le sommet mondial contre la crise climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. On a encore atteint l'an passé des records de concentration dans l'atmosphère, Jeanne Richard.
Plus 10% en à peine 20 ans. Le CO2 s'accumule dans l'atmosphère plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité, alerte le rapport. En cause, la combustion d'énergie fossile, mais aussi les feux de forêt au Canada ou en Australie, et le phénomène El Niño qui a ralenti l'année dernière la capacité des plantes à absorber une partie de nos émissions. Autre gaz à effet de serre, le méthane, lui aussi atteint un niveau record. En 2023, ce sont les bactéries dans les zones humides qui en ont produit le plus, estiment les experts. Si le phénomène est naturel, il augmente quand il fait plus chaud. Cette hausse est donc une conséquence indirecte du réchauffement climatique. Enfin, le protoxyde d'azote en hausse, lui, à cause de l'utilisation d'engrais azotés par l'agriculture intensive. Dans un autre rapport publié ce lundi, l'ONU Climat appelle les États à réagir et à amorcer une baisse des émissions. Les mesures prises actuellement ne permettraient qu'un recul de 2,6% d'ici 2030, alors que les scientifiques estiment qu'il faudrait les voir baisser de 43% pour nous garantir un avenir vivable.
De la crise climatique à la crise automobile.
Le constructeur allemand Volkswagen, la première marque d'automobile en Europe, va fermer 3 usines en Allemagne. Des dizaines de milliers d'emplois seraient supprimés. Pour ceux qui ne sont pas licenciés, des coupes de 10% dans leur salaire sont annoncées.
Nous sommes à J-8 de l'élection présidentielle aux États-Unis et côté démocrate, 2 personnalités sont devenues incontournables dans la campagne de Kamala Harris.
Un couple, Michelle et Barack Obama, ils ont mis tout leur poids ces derniers jours dans la campagne de la candidate démocrate alors que le scrutin présidentiel aura lieu mardi prochain, dans 8 jours donc. Michelle et Barack Obama participent à des meetings. Ils mettent tout leur poids dans la balance. Correspondance à New York de Karine Houghton.
Dans le Michigan, ce week-end, Kamala Harris avait une chauffeuse de salle hors pair, Michelle Obama elle-même, qui, comme lors de la convention démocrate en août, a galvanisé la salle. L'ancienne première dame s'est autorisée des prises de position féministes, alors que la candidate démocrate qui veut rester centriste n'en prend pas. Mais surtout, elle sait interpeller les électeurs, y compris sur tout ce qui est passé à Donald Trump.
J'espère que vous me pardonnerez si je suis un peu en colère, parce que nous sommes indifférents à son comportement erratique, à son déclin mental évident, à son passé de criminel condamné, de prédateur reconnu responsable d'abus sexuels. Tout cela pendant que nous trions les réponses de Kamala dans des interviews qu'il n'a même pas le courage de faire.
Les hommes noirs sont plus prêts à voter pour Donald Trump que pour Kamala Harris et Barack Obama a replacé la misogynie au centre des débats, tentant de convaincre ses frères de rallier la démocrate. Karine Houghton, New York, RFI.
Un procès très attendu doit commencer dans quelques minutes en France.
Dans un quart d'heure au tribunal de Paris, le premier procès de Gérard Depardieu, le célèbre acteur qui est accusé de plusieurs crimes sexuels, de viols. Mais cet après-midi, ce sont des accusations d'agression sexuelle qui seront jugées. Elles auraient eu lieu lors du tournage d'un film. Et puis coup de théâtre ce matin, à quelques heures de l'ouverture des débats. On a pris part à la voix de son avocat Jérémy Assous que Gérard Depardieu, finalement, n'assisterait pas à l'audience pour raison de santé.
On espérait que ces médecins nous confirment qu'ils puissent venir. Malheureusement, Gérard Depardieu est extrêmement affecté. Et malheureusement, ces médecins lui interdisent de se présenter à l'audience, raison pour laquelle il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent, puisque Gérard Depardieu entend être présent, souhaite s'exprimer, mais bon, il n'y a aucune urgence. Le procès devrait, c'est le tribunal qui va le décider, être reporté, et ainsi il pourra être présent à la prochaine audience.
Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, il était tout à l'heure sur France Info. Vous êtes sur RFI, et il est 13h15 et c'est la suite d'RFI Midi, Anne Cantoner.
Merci Florent Guignard, on va parler de l'actualité sportive tout de suite. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Anne.
Le classique de la Ligue 1 plié en quelques minutes, c'est du football évidemment, le PSG a facilement dominé l'OM 3-0 hier au Stade Vélodrome.
Et vu les formes respectives des deux équipes, on s'attendait à un match serré beaucoup plus que ces dernières années, sauf que les Marseillais se sont complètement sabordés. Un premier but encaissé à la 7e minute, un carton rouge discutable c'est vrai reçu par Amin Harit à la 20e et puis juste avant la demi-heure de jeu, un but contre son camp un peu gag de Balerdi. Barcola ajoutera le troisième pour les Parisiens à quelques minutes de la mi-temps. 3-0 à la pause, 3-0 à la fin aussi. Du bon boulot pour le milieu du PSG. Vitinha au micro de nos confrères de DAZN.
C'est un bon sentiment, la joie, parce qu'on veut gagner ici, toujours. Et faire ça ici, dans cette stade, il y a une saveur spéciale, donc on est très content. Ils ont pris le rouge tôt, on a fait deux buts d'affilée, ça a tué le match pour eux. On pouvait faire plus de buts, on a raté beaucoup d'occasions. Et voilà, on est très content, on a gagné cette match, c'est fait.
C'est fait et le PSG prend un peu d'air en tête du classement. 3 points d'avance sur Monaco, battu pour la première fois de la saison à Nice 2-1. Dans les autres championnats européens, deux grands chocs et deux matchs spectaculaires. 4 partout entre l'Inter Milan, deuxième de Serie A italienne, et la Juventus Turin, troisième. Et puis 2-2 dans le sommet de Première Ligue anglaise, Arsenal-Liverpool avec encore un but de Mo Salah pour les Reds. Manchester City profite de ce partage des points pour s'installer seul en tête.
Alors que Manchester United coule 14e après sa défaite à West Ham. La défaite de trop pour l'entraîneur Eric Ten Hag.
Remercié pour mauvais résultats. Eric Ten Hag était arrivé sur le banc mancunien en avril 2022. Il aura remporté un seul trophée, la dernière Coupe d'Angleterre. C'est un autre Néerlandais, une ancienne gloire du club, Ruud van Nistelrooy, qui va assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.
Ruud van Nistelrooy, ancienne gloire aussi du Real Madrid, le club peut-être du prochain Ballon d'Or.
La prestigieuse cérémonie se tient aujourd'hui à Paris. Ils sont encore 30 à pouvoir succéder à Lionel Messi, 30 finalistes, mais deux noms se dégagent clairement, deux joueurs du Real Madrid en effet, Jude Bellingham, l'anglais, et surtout Vinicius, l'ailier brésilien, le grand favori pour notre consultant Chérif Guémour.
C'est aussi dans la logique et dans l'esprit du Ballon d'Or, c'est-à-dire les buteurs, les attaquants et les joueurs spectaculaires, rapides. À ce niveau-là, il coche toutes les cases. Bellingham s'est progressivement éteint tout au long de la saison. Il fait un super début de saison avec le Real. Il finit un peu sur les rotules et on voit que même si l'Angleterre a fini finaliste de l'Euro, il a pas pesé comme on aurait aimé qu'il pèse.
Chérif Guémour, consultant de Radio Foot International avec Sofiane Amazian. Le Ballon d'Or féminin sera aussi remis ce soir. L'Espagnol Aitana Bonmatí, sacré l'an dernier, a encore la faveur des pronostics.
Et puis du tennis, il a gagné le titre le plus important de sa jeune carrière hier à Bâle. Le français Giovanni Pecci-Péricard est maintenant attendu au Masters 1000 de Paris-Bercy.
Mais on le verra seulement demain, a priori, pour son entrée en lice face à l'Américain Francis Tiafoe. Le tournoi en attendant débute ce lundi avec déjà la qualification pour le deuxième tour d'Arthur Rinderknecht sur abandon de son adversaire le Tchèque Thomas Machac. À suivre un peu plus tard, Adrien Manarino, Hugo Humbert ou Stefano Tsitsipas pour les principaux engagés du jour.
Merci Thomas de Saint-Léger. L'actualité sportive est aussi sur internet rfi.fr.
RFI Midi, le monde à la mi-journée. Anne Cantner.
Le Premier ministre avait misé sur des élections anticipées pour clarifier la situation politique au Japon. Il a perdu. Le Parti libéral démocrate conservateur au pouvoir de manière quasi ininterrompue depuis des décennies, a perdu sa majorité et devra donc former une coalition pour se maintenir. Bonjour Arnaud Griveaux.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la politique japonaise contemporaine. D'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat de Shigeru Ishiba après 27 jours seulement au pouvoir, lui qui a longtemps été très populaire au Japon?
En tout cas, dans son parti. Je dirais que ça n'est pas vraiment son bilan à lui. En réalité, c'est plutôt le bilan de son parti. On ne s'attendait quand même pas à avoir un tel revers électoral, même si bon, on savait que ce serait plus difficile que les fois précédentes à cause notamment d'un plus gros scandale que d'habitude, je dirais, sur les questions de financement de campagne. Donc, apparemment, c'est quand même vraiment cet élément-là qui pourrait faire la différence. Et malgré les parlementaires qui étaient impliqués dans ce scandale-là, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a 18, je crois, qui ont été élus malgré tout.
Alors que le Premier ministre s'était engagé à ne pas soutenir leur campagne.
Oui, c'est ça. Ils ont été officiellement retirés des listes officielles, mais dans la mesure où, dans les circonscriptions où ils étaient, le Parti libéral-démocrate n'a pas envoyé un candidat officiel à nouveau, je dirais. Eh bien, les électeurs savaient très bien à qui ils avaient affaire et ils savaient qu'en face, il n'y avait que des parlementaires, des candidats d'opposition. Donc, c'était un désaveu relativement limité, je dirais. Et donc, il y en a 28 qui ont perdu quand même, dont des figures assez importantes, des anciens ministres. Donc, c'est quand même un revers. Mais bon, il y en a 18 qui sont passés malgré tout. Et visiblement, il y a de très grandes chances qu'il soit réintégré dans le parti, comme ça se fait assez souvent. Notamment parce que le Parti libéral-démocrate en a besoin, là, en réalité. Il y a peu de chances qu'ils arrivent à atteindre la majorité malgré tout, même avec une coalition.
Oui, c'est ça. A priori, même avec ses alliés, le Parti conservateur n'atteint pas 50%.
Non, ouais.
Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait faire le Premier ministre sortant, tenter de former un gouvernement minoritaire ou au contraire essayer d'élargir un peu la coalition ?
Oui, il y a des tentatives d'élargir la coalition. C'est peut-être possible quand même, parce qu'il y a des partis très conservateurs, je dirais, à sa droite, qui ont récolté quelques sièges. Donc, c'est pas impossible qu'il essaye de créer des alliances, voilà, de réintégrer donc ceux qui avaient été évincés, comme je l'ai expliqué. Mais c'est assez difficile malgré tout d'arriver à 233, qu'est la majorité, parce que là ils sont à 215. Donc 18, ça fait quand même beaucoup. Après, le gouvernement minoritaire, c'est possible. Ça s'est jamais vraiment passé au Japon. Disons que ça s'est passé pendant une très courte période et à partir d'un moment donné, le Parti libéral-démocrate avait dû former une coalition justement avec le parti bouddhiste Kōmeitō, avec lequel il est en coalition depuis 1999. Mais là, pour une fois, ça ne suffit pas pour arriver à la majorité.
Et alors, selon vous, est-ce que ce rejet s'applique à l'ensemble du parti ou bien à la figure spécifiquement de Shigeru Ishiba? Et si je vous pose la question, c'est parce que je me demandais si on pourrait imaginer que le parti reste aux manettes, mais sans lui.
En fait, c'est possible que, des voix internes tentent de lui mettre, je dirais, sur le dos la responsabilité de ce revers électoral. Là où peut-être qu'il pourrait, en un sens, avoir raison, c'est que, je dirais, à l'instar de notre président de la République française, cette décision de faire une dissolution à ce moment-là était peut-être pas la plus indiquée. Il a voulu avoir quelque part l'onction des élections après avoir été élu à la tête de son parti, et il espérait, endiguer la perte de popularité qu'avait subi son parti avec le précédent premier ministre, Kishida Fumio. Mais son pari n'a pas fonctionné, de la même façon que le pari de notre président n'a pas fonctionné non plus. Je dirais que Ishiba n'y est vraiment pas pour grand chose dans l'affaire, à part le fait d'avoir fait son coup de poker raté, je dirais.
Lui, aujourd'hui, exclu de démissionner pour éviter un vide politique, ça c'est lui qui le dit, ce sont ses mots. C'est effectivement ce qui se passerait selon vous?
Oui, la nature a horreur du vide, donc je dirais si ça n'est pas ici-bas, ce sera un autre. Enfin, il a remporté certes les élections à la tête de son parti, mais il n'avait pas autant de soutien, je dirais, au sein de son parti que d'autres candidats malheureux, disons. Donc je dirais si ça n'est pas lui qui est le chef de son parti, ce sera quelqu'un d'autre. Donc bon, je dirais que oui, le vide politique, à mon sens, il est plus au niveau des politiques publiques et au niveau des idées. Mais bon.
Mais justement, s'il arrive à se maintenir, quelle sera sa marge de manœuvre pour gouverner ?
Extrêmement limitée. Enfin, elle n'a jamais été aussi limitée, tout en étant au pouvoir. C'est là vraiment, il va devoir. Moi, je vois pas trop d'autres solutions, effectivement, que de faire. S'il veut rester au pouvoir, de faire des compromis avec l'opposition. Mais je dirais, ça dépend moins, à mon sens, de ce que lui peut faire. Que je dirais la stratégie que l'opposition va vouloir adopter. Soit l'opposition va vouloir se montrer comme étant, on va dire, constructive, et donc va certes jouer le rapport de force, mais quand même se montrer relativement collaborative, on va dire.
Ou bien l'autre option qu'on a pu voir et qui vous faisiez le parallèle avec la France, qui est un blocage, et c'est une question qui va se poser. Je vous remercie beaucoup, Arnaud Griveaux, d'avoir été en ligne avec nous.
RFI Midi.
J-8 aux États-Unis. Il reste 8 jours avant l'élection présidentielle qui s'annonce extrêmement serrée. Et nous vous proposons toute cette semaine un regard chaque jour sur ce scrutin. Aujourd'hui, regard venu de Gaza. Dans un territoire ravagé par les bombes israéliennes, on n'attend rien des États-Unis qui affichent un soutien sans faille au gouvernement israélien depuis le début de la guerre et l'attaque terroriste sans précédent qu'avait menée le Hamas le 7 octobre 2023. Écoutez les réactions des Palestiniens de Gaza recueillies par Rami Al-Merari avec Sami Bourlifa à Jérusalem.
Dans le ciel de Gaza, les drones et les avions de combat israéliens. Les bombes qui s'abattent sont made in USA. La présidentielle américaine est un enjeu pour les Américains, mais pour nous, Gazaouis, cela ne fera aucune différence, tranche Abdelkader, un déplacé.
Ils sont tous pareils. Leur priorité est de soutenir les forces d'occupation israéliennes. Démocrates et républicains peuvent avoir des désaccords sur tout, sauf sur le soutien aux Israéliens. Ce soutien peut prendre différentes formes, mais c'est le même.
Pourtant, l'administration sortante démocrate du président Joe Biden se dit contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens et pour une solution à deux États.
Pour nous, Palestiniens, tout ça, c'est du vent. Oui, les démocrates se disent favorables à l'émergence d'un État palestinien et pour une solution à deux États. Mais ce sont juste des paroles. Pour remporter la présidentielle aux États-Unis, il faut afficher son soutien à Israël.
Plus tôt cette année, en mai, Washington avait gelé une livraison d'armes à l'État hébreu, une cargaison de missiles dévastateurs d'une tonne. Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes. C'est mal, avait alors expliqué le président Joe Biden. Mais très vite, le premier ministre israélien a réussi à retourner la situation. Benjamin Netanyahou a violemment critiqué son allié américain et l'a accusé de mettre l'État hébreu en danger. À Gaza, pour Khaled, c'est bien la preuve que ce sont les Israéliens qui mettent les Américains sous pression et non le contraire.
On pense à tort que les Américains dominent le monde, mais en réalité c'est Israël qui domine tout le monde, aussi bien les États-Unis que les pays arabes. Pour moi, Donald Trump va remporter la présidentielle américaine. Certes, les démocrates ont beaucoup fait pour Israël, mais Trump leur offrira plus encore.
À Gaza, tous ont à l'esprit l'accord du siècle. Alors président des États-Unis, Donald Trump avait présenté un plan de paix très favorable à Israël et qui légitimait même la colonisation. Son potentiel retour au pouvoir inquiète Souheil, cet autre Gazaoui.
Trump va remettre son plan contre les Palestiniens à l'ordre du jour. La lutte contre le Hamas, l'élimination de Yahya Sinwar, tout ça, ce ne sont que des prétextes. Le véritable objectif de cette guerre est de nous chasser d'ici sans possibilité de revenir un jour à Gaza.
Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Et notre série se poursuit toute la semaine. Demain, les élections américaines vues d'Ukraine.
RFI, la sélection du mois.
Grand Corps Malade.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire.
La nostalgie comme emblème, entre galère et poème. À chacun sa bohème.
Joséphine.
Lojo.
Viens-tu du jazz ou du mambo?
RFI Musique.